Alors, on va poursuivre notre étude du livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, on va étudier Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 12. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants et plus heureux les uns et les autres celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Alors, aujourd'hui, j'ai donné comme titre à ce passage qu'on va étudier l'incapacité de l'homme d'être le concepteur et le bâtisseur de son propre bonheur. Donc, on va regarder trois principales idées à l'intérieur de ce passage-là. On va regarder l'incapacité qui est causée par l'oppression du verset 1 au verset 3. Deuxième idée, on va regarder l'incapacité causée par la jalousie, versets 4 à 6. Et troisième idée, l'incapacité qui est causée par l'avarice, versets 7 à 12. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi à qui Dieu a donné une grande sagesse développe son thème principal, qui est la vie sans Dieu. Est vaine. Jusqu'ici, il a illustré son propos par le fait qu'après avoir tout richement expérimenté dans la vie terrestre, il constate que tout est vanité, ce qui veut dire éphémère, insignifiant, futile, vain, fragile et dérisoire. Ce fait amène inexorablement l'homme à constater le côté imprévisible, incompréhensible et incontrôlable de la vie. En suivant cette voie, il ne tirera aucun avantage ni aucun profit. On avait vu un petit peu tout cela dans le chapitre 1, les versets 1 à 3. Lorsqu'on va faire, on va reviser un petit peu pour se rendre jusqu'où on est rendu, pour regarder comment Salomon a développé ce thème-là de la vie sans Dieu est vaine. Ensuite, si on regarde les versets 4 à 11, encore là du chapitre 1, Salomon poursuivit en partageant des réflexions sur le cycle monotone de la nature et aussi de l'expérience humaine. Et ensuite, continuer sa démonstration de la vanité de toutes choses dans la vie. Dans les versets 12 à 18, il a montré la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse humaine. Dans les versets, dans le chapitre 2, les versets 1 à 11, il a montré la vanité de la recherche de satisfaction dans l'expérience. Et là, il y a plusieurs variétés d'expériences, soit les plaisirs au pluriel, la boisson, les travaux de construction, l'agriculture, l'horticulture, les possessions étendues, les richesses et aussi la musique. Ensuite, il a poursuivi en démontrant la vanité de la recherche de la satisfaction dans la sagesse et le travail, dans le verset 12 à 26 du chapitre 2. Il a poursuivi la vanité de la recherche de satisfaction dans le monde présent. Alors, dans le monde présent, et ça, ça part du verset 1 du chapitre 3 jusqu'au verset 7 du chapitre 5. Alors, on va voir trois idées qu'on a vues dans les leçons précédentes. Le verset 1 à 15 du chapitre 3, il nous montre que c'est la fatalité pour l'incroyant et le plan souverain pour le croyant. Dans les versets 16 du chapitre 3, aller jusqu'au verset 6 du chapitre 4, il nous veut nous montrer que la méchanceté et l'oppression s'étalent partout. Et il veut nous montrer aussi, les versets 7 à 12 du chapitre 4, que dans de nombreuses situations, deux réussissent mieux qu'un seul. Nous allons maintenant examiner les raisons de l'incapacité de l'homme à être le concepteur et le bâtisseur de son propre bonheur. Alors, il y a trois raisons: l'oppression, la jalousie et l'avarice. Alors, on va regarder la première idée, l'incapacité pour l'homme d'être le concepteur et le bâtisseur de son propre bonheur. Et là, il nous donne pourquoi. On relit les versets 1 à 3 et ensuite, on va faire des commentaires. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts, qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants, qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Alors, on va regarder un petit peu l'ensemble des idées qu'il y a dans ce passage-là, ces trois versets-là. Alors, il y a comme trois idées. Il veut nous montrer la totalité des oppressions. Quand il dit, dans la première partie du verset 1, « J'ai considéré, ensuite, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. » Alors, ça veut dire que durant, on pense que Salomon était sur la fin de sa vie lorsqu'il a écrit l'Ecclésiaste. Alors, bien sûr qu'au cours de sa vie, il en avait vu énormément. Alors, il dit « j'ai considéré », ça veut dire que lui-même, avec la grande sagesse que Dieu lui avait donnée, il a vu toutes les oppressions qui se commettaient, qu'il a eu l'occasion d'observer. Alors, les différentes versions des Écritures sont éclairantes quant à la signification de « j'ai considéré ». Dans la version Louis II, 21, il dit « j'ai examiné ». Ensuite, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Donc, il y a vraiment l'idée d'examiner. Et dans la version David Martin, elle dit « Puis je me suis mis à regarder toutes les injustices qui se font sous le soleil. » Alors, vraiment, l'idée de considérer, c'est l'examen et le regard attentif. La considération de Salomon veut donc dire l'attentive observation et le regard lucide de ceci dans la vie de tous les jours et de façon constante, car il parle de toutes les oppressions sous le soleil. Bien entendu, on sait, par expérience et par observation, que l'oppression peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'oppression contre les personnes, ça peut être de l'oppression aussi contre la propriété, et ça peut être de l'oppression aussi contre la réputation. Opprimer, c'est faire souffrir autrui par un abus d'autorité et les actions et les conséquences qui en découlent. C'est accabler, c'est asservir, c'est dominer sans pitié, c'est placer des personnes sous un joug, c'est aussi rendre esclave, c'est violenter, c'est abuser de la force. Une expression latine qui se lit comme suit, c'est « homo homini lupus est », est une locution latine qui signifie « l'homme est un loup pour l'homme ». Autrement dit, l'homme est le pire ennemi de son semblable. Voici quelques illustrations, on va en regarder dans la Bible et on va aussi en regarder dans l'histoire. Alors, dans la Bible, bien sûr, on pourrait en prendre toute une série beaucoup plus longue que celle qu'on va donner, mais c'est juste pour donner une idée illustrée. Alors, on va regarder Exode chapitre 3, verset 9. On sait que c'est dans Exode 3 qu'on parle de l'oppression d'Israël par les Égyptiens. Le verset 9 se dit comme suit. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Alors, bien entendu, l'oppression était tellement grande que, bien sûr, le Seigneur dit qu'il l'a vu. Bien entendu, on sait qu'il voit absolument tout. Et aussi, un autre passage dans les Écritures qui nous amène à une autre caractéristique qui peut être possible. Donc, ici, on a le peuple d'Israël qui est oppressé par les Égyptiens. Mais le Seigneur parle aussi dans Ésaïe, chapitre 3, au verset 5, que le peuple d'Israël peut aussi s'oppresser les uns envers les autres. C'est un peu comme s'il parle des croyants qui s'oppressent les uns les autres. Alors, dans Ésaïe, chapitre 3, verset 5, ça dit, « Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. » Alors, bien entendu, on vient de voir deux exemples dans la Bible et on peut maintenant regarder aussi des histoires dans l'histoire des hommes en général. Bien sûr, il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres. On peut prendre par exemple l'histoire de l'esclavage du peuple noir qui a été réduit à l'esclavage et traité comme des animaux. On peut parler de ce fait-là dans le commerce des esclaves qu'il y a eu de l'Angleterre et des États-Unis. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait facilement illustrer et en parler en long et en large. L'exploitation éhontée de la classe ouvrière, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et d'autres exemples, dans le cours de l'histoire des hommes, le commerce des êtres humains. Et on pourrait, bien entendu, allonger la liste de beaucoup. Donc, on vient regarder qu'est-ce qui est dit dans le verset 1 à 3, c'est vraiment la totalité des oppressions que Salomon veut nous parler. Et dans le verset 1b, il nous parle des troubles des opprimés. Quand il dit, et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Ils sont, bien entendu, constamment dans les larmes. Le fait est mentionné deux fois pour accentuer cette malheureuse réalité. Il nous dit à deux reprises, personne qui les console, personne qui les console. Alors, bien entendu, si on prenait la peine de regarder dans les Écritures et aussi dans l'histoire des hommes, chaque fois que des individus ou des peuples ont été opprimés, on pourrait voir qu'il y a à l'intérieur de ça beaucoup de larmes. Et on pourrait voir aussi la vérité du verset qui nous dit qu'il n'y a personne pour les consoler. Alors, ils sont constamment dans les larmes, ils n'ont pas de consolateur. Et bien entendu, l'oppression amène toujours des violences, de quelque nature qu'elles soient de nature physique, qu'elles soient de nature psychologique, qu'elles soient de nature sociale, de nature économique, ou de nature discriminatoire. Et encore là, bien entendu, on pourrait donner une multitude d'exemples à la fois dans la Bible et à la fois dans l'histoire des hommes pour démontrer les troubles des opprimés. Alors, on va regarder l'autre idée qu'il y a dans les versets 1 à 3. C'est vraiment les tentations des opprimés. Bien entendu, quelqu'un qui est opprimé, ça peut l'emmener dans un état psychologique tel que là, il se met à avoir des tentations. Et quand il dit dans le verset 2, « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » Alors, les tentations, on pourrait en regarder au moins deux. C'est celle de valoriser et d'envier la mort plus que la vie. Alors, les personnes qui sont gravement et constamment dans les souffrances de l'oppression sont tentées d'haïr la vie et d'envier ceux qui sont morts et qui sont déjà dans leur tombe. Autre chose qui peut, qui peut leur amener une tentation, c'est celle de préférer n'avoir jamais existé. Ils pensent heureux celui qui n'est jamais né, car il n'a jamais vu le mal qui se fait sous le soleil, n'a jamais vu la méchanceté commise et le tort fait. Cependant, nous devons considérer que le croyant en Jésus-Christ, quelle que soit sa condition calamiteuse dans ce monde, ne peut avoir de raison de souhaiter qu'il n'ait jamais été, puisqu'il glorifie le Seigneur même dans les grandes épreuves et qu'il connaîtra la résurrection et la vie éternelle. Quant à l'incroyant, il devrait considérer que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un homme n'est jamais irrémédiablement défait tant qu'il n'est pas en enfer. Alors, les tentations qui guettent les opprimés, c'est vraiment celle de valoriser et d'envier la mort plus que la vie, et aussi celle de préférer n'avoir jamais existé. Alors, bien sûr, pour un croyant, c'est une chose qui ne devrait jamais se faire, parce que pour un croyant, tu es sûr qu'un jour, tu vas ressusciter, tu vas connaître la vie éternelle. Puis pour l'incroyant, ce n'est pas une chose non plus qu'il se devrait de désirer, parce que comme on vient de le dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et son sort n'est pas véritablement, irrémédiablement décidé, tant qu'il n'est pas en enfer. Deuxième point qu'on va regarder, c'est l'incapacité causée par la jalousie. Alors, bien entendu, l'idée principale, c'était que on cherchait de comprendre que l'homme est incapable de concevoir son propre bonheur et incapable de bâtir son propre bonheur. Alors, ils viennent de nous expliquer qu'une des raisons pour lesquelles l'homme n'est pas capable de concevoir ni de bâtir son propre bonheur, c'est l'oppression. La deuxième idée, c'est que c'est la jalousie des hommes, les uns envers les autres. Alors, on va relire les versets 4 à 6. « J'ai vu aussi que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'un à l'égard de l'autre. Cela aussi est une vanité et un tourment d'esprit. L'insensé se croise les mains et se consume lui-même. Mieux vaut plein le creux de la main avec repos que plein les deux paumes avec travail et tourment d'esprit. » Alors, on va regarder les trois idées. La jalousie envers tout travail et toute habileté, qu'on lit dans le verset 4. J'ai vu aussi que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'un à l'égard de l'autre. Cela aussi est une vanité et un tourment d'esprit. Si un homme est perspicace, habile et prospère dans son entreprise, il subit l'envie de ses voisins. Bien qu'il se donne beaucoup de mal, qu'il travaille très fort et qu'il soit honnête et ne fait de tort à personne, ne trompe personne, qu'il s'applique à ses propres affaires et qu'il les gère selon toutes les règles de l'équité et de la loyauté, malgré tout cela, il est envié de son voisin et d'autant plus si sa réputation va grandissante. Ça, il y a une multitude d'exemples qu'on pourrait donner. Dès qu'une personne se distingue un peu des autres, il y a une multitude de personnes qui vont chercher à le discréditer, qui vont chercher à la diminuer et à s'élever par la même occasion. Alors, pourquoi l'homme ne peut pas être le concepteur ni le bâtisseur de son propre bonheur? Bien entendu, il y a cette réalité-là, cette envie, cette jalousie des hommes les uns vers les autres. Alors, bien entendu, le verset nous montre que le peu de conscience que la plupart des hommes ont, qu'ils voudront jalouser un voisin ou un collègue, ils vont lui attribuer une mauvaise parole, ils vont chercher à le déprécier uniquement parce qu'il est plus ingénieux et plus industrieux qu'eux-mêmes et qu'il a plus de bénédictions du ciel. On pourrait prendre des exemples bibliques. Caïn qui enviait Abel, Ésaü qui enviait Jacob, Saül qui enviait David pour leurs bonnes œuvres. C'est carrément du diabolisme. Le peu de confort que les hommes sages et utiles doivent s'attendre à avoir dans ce monde, qu'ils se comportent avec tant de prudence, ils ne peuvent échapper à l'envie. Et qui peut résister à l'envie? On dit par exemple dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, au verset 4, « La fureur est cruelle et la colère impétueuse. » Mais qui résistera devant la jalousie? Ceux qui excellent dans la vertu feront toujours mal aux yeux de ceux qui excèdent dans le vice et qui ne doivent pas non plus nous décourager de tout travail juste, mais nous pousser à en entendre la louange, non des hommes, mais de Dieu, et de compter sur la satisfaction et le bonheur dans la créature. Mais pour chaque bonne œuvre, un homme sera accepté par son Dieu. Et alors, il n'a pas à se soucier d'être envié par son prochain. Alors, ça, c'est, je pense que n'importe qui commence à avoir de l'âge un peu peut se rendre compte que dans quelque métier que ce soit, dans quelque profession que ce soit, il y a toujours cette jalousie, cette envie des uns envers les autres qui... peu importe, même ce qu'on l'a mentionné, si la personne est honnête, travaille fort, ne fait pas de tort à personne, puis elle fait tout selon l'équité et la loyauté, malgré ça, il va y avoir des gens qui vont chercher à le discréditer, qui vont chercher à lui donner une mauvaise réputation et à chercher, comme on peut dire, comme on dit en québécois, chercher des poux. Ils vont chercher à trouver la moindre chose dans l'œuvre d'une personne pour essayer de dire, ben il n'est pas si bon que ça, regarde, il y a telle erreur. Était la fin. La deuxième chose qu'on voit dans le passage de 4 à 6, c'est la tentative d'échapper à la jalousie par l'oisiveté dans le verset 5. L'insensé se croise les mains et se console lui-même. Autrement dit, il y a des gens que par l'observation de leur vie de tous les jours se rendent compte qu'il y a une énorme jalousie les uns envers les autres et que sa façon de ne pas le subir, de ne pas le connaître, cette jalousie, c'est de rien faire. Alors, si tu fais rien, normalement, tu ne devras pas attirer l'envie ou la jalousie des autres. Si un homme est stupide, ennuyeux et malheureux, et maladroit, c'est-à-dire dans ses affaires, il se fait du mal à lui-même. Le fou, qui vaque à son travail comme si ses mains étaient jointes, qui fait tout maladroitement, le paresseux qui aime son bien-être, et parce que ses mains refusent de travailler, il mange sa propre chair, autrement dit, est un peu un cannibale pour lui-même, et se met dans un si mauvais état qu'il n'a rien à manger, mais sa propre chair. Il a une vie de chien, la faim et la facilité. Parce qu'il voit des hommes actifs prospérer dans le monde, il se heurte à l'autre extrême. Et de peur d'être envié pour ses bonnes œuvres, il fait tout mal et ne mérite pas d'être plaint. Notez que l'oisiveté est un péché qui a sa propre punition. Et le verset 6 qui nous dit Mieux vaut le plein de la main avec repos que plein les deux paumes avec travail et tourment d'esprit. Alors, selon les commentateurs, le verset peut être interprété de deux principales façons. La première, ça peut être considéré comme l'argument du paresseux pour s'excuser dans son oisiveté. Il croise les mains, s'abuse lui-même et applique mal une bonne vérité pour se justifier. Comme si, parce qu'un peu de repos vaut mieux que l'abondance avec des conflits, il évite et refuse un travail honnête et exigeant. L'autre façon de l'interpréter, c'est comme le conseil de Salomon de garder le juste milieu entre ce travail qui fera envier un homme et cette paresse qui fera qu'un homme mangera sa propre chair. Par une honnête industrie, faisons en sorte tout en évitant qu'un excès nous conduise vers le tourment d'esprit. Le sage conseil d'Agur dans le livre des Proverbes est très certainement à utiliser. Proverbes chapitre 30, versets 8b et 9, où il dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie. » Et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Alors, il faut tenir compte que, dans les Saintes Écritures, le Seigneur nous commande de tout bien faire pour le Seigneur lui-même. C'est vraiment un verset à considérer quand on veut savoir comment se comporter face à la jalousie et à l'envie des hommes face à nous. C'est vraiment Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, bien entendu, quand on se rend compte de la jalousie comme ça, bien sûr, on peut chercher à évader le problème en ne faisant rien ou en faisant tout maladroitement et gauchement de manière à ne pas inciter les autres à la jalousie. Mais c'est vraiment une erreur parce que le Seigneur nous dit tout bien faire, comme pour le Seigneur. Et même si ça occasionne de jalousie, il faut que tu persévères, tu gardes le cap à vouloir bien faire, parce que tu dois considérer que tu ne fais pas la chose pour les hommes, tu fais la chose pour Dieu, et tu te dois de donner ton plein rendement, de donner le plein déploiement de tous tes talents, de toutes tes connaissances. Donc, c'est très important. Alors, on sait que la jalousie, les douleurs de la jalousie peuvent être atténuées, comme on lit dans le verset 6, quand il dit « mieux vaut ». Alors, comment on peut atténuer les douleurs de la jalousie? Bien sûr, il y a les passages des Écritures qui nous parlent de pratiquer le contentement. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alors, le contentement. Alors, une autre chose que le chrétien peut pratiquer pour atténuer les douleurs de la jalousie, c'est de se rappeler et d'apprécier cette profonde vérité qu'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, soit la prise de conscience de notre richesse en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, nous dit « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Ce serait vraiment à méditer de comprendre que même si quelqu'un est chrétien très pauvre dans cette vie, la Bible nous dit qu'en Christ, on possède toutes choses. Troisième idée qu'on va regarder, pourquoi l'homme est incapable de concevoir et de bâtir son propre bonheur, c'est l'avarice, versets 7 à 12. Alors, on va regarder les versets 7 et 8 d'abord. On va voir comment l'avarice va se manifester. Il dit, « Je me suis mis à regarder une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et n'a point de second, il n'a ni fils ni frère, et toutefois, il n'y a point de fin à tout son travail. Même ses yeux ne se ressaisissent jamais de richesse. Il ne se dit point, « Pour qui est-ce que je travaille et que je prive mon âme du bien? » Cela aussi est une vanité et une pénible occupation. Alors, quand on examine un petit peu plus de près le contenu de ce passage-là, versets 7 et 8, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui vont se manifester lorsque l'homme va agir avec avarice ou qu'il va pratiquer très quotidiennement ou très activement l'avarice et la convoitise. La première chose, c'est l'irrationalité qu'on voit dans le verset 8a. Il dit, tel homme est seul, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère. Alors, une personne accumule beaucoup de richesses, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de personne à qui donner sa richesse, et pourtant, il n'arrête pas de vouloir l'accumuler durant toute la vie. Alors, bien entendu, la convoitise conduit à l'irrationalité. Il est possible que l'homme n'ait même pas de descendance, ni successeur, ni fils, ni frère, mais qu'il accumule de façon folle et inutile. Il ne peut pas s'arrêter, il ne voit pas le besoin même de questionner ce qu'il est en train de faire. Donc, une des manifestations de l'avarice, c'est de devenir irrationnel. Dans le verset 8b, c'est de devenir insatiable. Il ne se rassasie jamais de richesse. On a juste à regarder les hommes autour de nous, l'entendre des nouvelles. Les personnes qui sont milliardaires, ils en ont beaucoup plus qu'ils en ont besoin, énormément plus qu'ils en ont besoin. Pourtant, même s'ils sont plus que comblés, ils cherchent encore à en accumuler davantage. Alors, la richesse ne rassasie pas. L'homme devient insatiable. Deux versets qui nous parlent de cette réalité-là, malheureuse réalité. Proverbe, chapitre 27, verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Et un peu plus loin, dans le chapitre 30, encore là, du livre des Proverbes, versets 15 et 16. La sangsue a deux filles. Donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Donc, comment ça se manifeste, l'avarice, dans la vie des hommes? Ça l'amène à l'irrationalité, ça l'amène à l'insatiabilité, ça l'amène aussi à la déception, verset 8b. Quand ils nous disent, cela aussi est une vanité, bien entendu, ça fait référence que quand un homme fait cette chose-là, ça l'amène au côté éphémère, insignifiant, futile, vain, fragile et dérisoire, des poursuites terrestres, et aussi à constater le côté imprévisible, incompréhensible et incontrôlable de la vie. Donc, on vient de voir trois manifestations, l'irrationalité, l'insatiabilité, la déception. Parce qu'il se rend compte qu'en fin de compte, après un certain temps, que c'est une vanité, une poursuite du vent. Et dans l'autre chose que ça va lui amener dans les manifestations de l'avarice, c'est de la souffrance. Parce que ça nous dit dans le verset 8b, « et une pénible occupation ». Donc, c'est la pénible constatation que la souffrance est omniprésente dans cette recherche futile. Donc, dans les versets 7 à 12, il veut nous montrer l'avarice et sa manifestation, mais il veut aussi nous montrer qu'à l'avarice, il y a un remède, et c'est celui de la sociabilité. L'avaricieux est très souvent un solitaire. Il évite les contacts sociaux de peur qu'on le sollicite à partager ses richesses. Il devient donc hautain, mesquin et égocentrique. Cependant, il doit voir les nombreux avantages à la sociabilité sous toutes ses formes. Dans le verset 9, je pense que ça fait très certainement allusion à la sociabilité du mariage et aussi de l'amitié. Parce que ça dit « deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de quelqu'un qui se marie ou qui développe des amitiés? Ça va lui amener un bénéfice qui s'appelle l'appréciation mutuelle. Le fait qu'il s'amène quelque chose mutuellement vont faire en sorte qu'ils vont s'apprécier davantage l'un l'autre. Dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 18, les Écritures nous disent « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, le verset 9 fait probablement référence au mariage et à l'amitié où deux personnes sont mieux qu'une parce qu'ils s'apportent mutuellement quelque chose, l'appréciation par exemple. Et dans le verset 10, on a celui du soutien. Ça nous dit « car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Donc on peut voir ça dans la vie qui ne l'a pas déjà vu ou constaté dans sa propre vie. L'homme qui est avec une autre personne, donc le côté sociable, va profiter de l'assistance mutuelle. Si ta femme tombe malade, tu vas l'aider. Si tu tombes malade, elle va t'aider. Et bien d'autres exemples qu'on pourrait donner, des profits qu'on peut tirer du fait d'être deux. Et on a une autre idée qui est développée dans le verset 11. C'est celui du réconfort. Ça nous dit de même. « Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? » Je pense que cette idée du réconfort nous est aussi enseignée dans le Nouveau Testament, par exemple dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Donc, l'idée de parler d'être deux, c'est l'idée du réconfort, parce que Dieu nous dit qu'il est la source de toute consolation, et il nous donne la consolation de manière à ce que nous, après, nous puissions l'utiliser pour consoler ceux qui sont dans l'affliction. Donc, il y a plusieurs choses qui, dans le verset 9 à 12, sont mentionnées. L'appréciation mutuelle, l'assistance mutuelle, et aussi la consolation mutuelle. Et bien entendu, dans le verset 12, on a aussi celle de la protection. Verset 12, il dit « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Certaines versions parlent de la fil à trois brins. Donc on parle vraiment comme on sait comment qu'une corde est faite, ceux qui ont déjà acheté de la grosse corde, là, c'est trois brins qui sont entrelacés les uns à travers les autres. Et c'est, bien sûr, on sait que c'est ça qui donne la solidité qui, à la corde. Alors ici, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Souvent, dans les sermons chrétiens, on entend citer ce verset-là, la corde à trois fils. Bien entendu, on parle d'un couple. Il y a le mari, il y a la femme, et il y a le Seigneur. Donc, si dans la vie du couple, il y a cet entrelacement, l'homme, la femme et le Seigneur, ça solidifie la résistance de leur vie chrétienne face aux attaques de l'ennemi. Donc, l'image est facile à saisir. Une corde à deux fils ou à trois brins est plus solide que celle à un fil. L'image de la corde à trois brins est souvent utilisée comme une illustration de la solidité d'une relation à trois. De Marie, mon épouse, et le Seigneur Jésus-Christ entre les deux qui les solidifie fortement. Donc, l'entrelacement des trois brins donne une très grande résistance. C'est un chapitre très riche, le chapitre 4 des Écritures. Bien sûr, il y a encore beaucoup à dire, mais on fait une étude, bien entendu, incomplète, mais on l'a fait pour essayer de comprendre du moins l'idée principale que le Seigneur veut nous véhiculer de manière à ce qu'on l'applique dans nos vies. Parlant d'application, j'en vois au moins trois des applications qu'on peut mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Première application, nous ne pourrons jamais bâtir notre propre bonheur terrestre à cause des oppressions multiples et constantes des hommes. Nous les subissons et nous les subirons durant toute cette vie. Elles s'exercent contre nos personnes, contre nos biens et contre notre réputation. Tournons-nous résolument vers Christ qui nous instruit, nous conduit et nous protège. Il est et restera toujours notre guide. Deuxième application, ne cherchons jamais à éviter la jalousie par l'oisiveté ou la médiocrité. Donnons toujours notre meilleur. Apprenons et pratiquons le contentement. Implorons le Seigneur de nous donner une vision et une pratique équilibrées et soyons reconnaissants des richesses dont nous sommes déjà les bénéficiaires dans la glorieuse personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Troisième application, soyons sur nos gardes et prions de ne jamais tomber dans l'avarice et la convoitise. Soyons généreux de notre temps et de notre argent pour soulager les misères des hommes. Valorisons le mariage et l'amitié. Rappelons-nous les bénéfices de la sociabilité, qui sont l'appréciation, l'assistance, la consolation, le réconfort et la protection. Installons à tout prix le troisième brin dans notre corde, soit la personne de Jésus-Christ. Ce sera alors la solidité ultime dans notre vie chrétienne. Que notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit exalté, loué et adoré éternellement. Amen.